L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. La déconstruction, c'est un peu le sujet de ce podcast sur Volant. J'essaye au maximum de déconstruire des imaginaires qui ont bâti notre éducation. Et quand il s'agit d'imaginaire, je pense que l'un des sujets majeurs, ça reste la relation entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, j'ai le immense plaisir de recevoir Louise Aubéry, qui est peut-être plus connue sur Instagram pour son pseudo My Better Self, qui a également un podcast qui s'appelle In Power, et elle sort un livre qui s'appelle Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Louise, c'est une fille que je suis depuis un petit moment, on se connaît, voilà, vous allez vous en rendre compte en écoutant l'épisode, et que je trouve cette femme exceptionnelle. Elle fait tellement de choses avec tellement de cœur. C'est une fille brillante qu'il faut absolument écouter et suivre. Donc justement, je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Louise.
Salut Greg.
Comment vas-tu aujourd'hui ?
Ça va bien. Je me remets d'une semaine intense, mais riche en émotions. Voilà, de voir mon livre en librairie, c'est quand même un truc, tu vois, je me demandais ce que ça allait faire, c'est indescriptible.
Ça doit être, moi je l'ai vécu aussi, cela dit, mais c'est vrai que c'est assez touchant, effectivement. Ouais. Ton bouquin, il parle beaucoup de déconstruction. J'aimerais savoir, c'est quoi pour toi le truc le plus important à déconstruire ?
Je pense, ce qui est le plus important à déconstruire à mes yeux, c'est le conditionnement de notre enfance. Mmh. On a un peu tous, on grandit voilà dans une société qui nous conditionne, mais notre environnement familial aussi beaucoup. Et c'est vrai que j'ai heureusement, je crois, commencé assez tôt à remettre en question l'éducation que je recevais de mes parents. Et ça m'a permis de pas prendre pour acquis acquises même des croyances qu'ils me transmettaient. Et même si je m'en rendais pas vraiment compte à l'adolescence, c'est vrai que je l'ai plus formalisé, quand je suis arrivée en études supérieures et tout, et que je me suis rendu compte que je voulais me détacher de certains comportements que je pouvais avoir, de certains réflexes que j'avais, qui étaient en fait purement des héritages de ma famille. Et vraiment, je le dis assez souvent, mais j'étais une personne totalement différente à 18 ans.
Tu satures un peu quand t'es trop proche du micro.
Il faut que je l'éloigne un peu.
Nickel. Et d'ailleurs, tu parles dans le bouquin de super-héros et de costumes en particulier. Tu peux nous raconter ça ?
Ouais, la petite anecdote. Écoute, c'est vrai que, alors en l'occurrence, ça m'est pas arrivé à moi parce que moi, je me déguisais en Lala, des têtes de mise. J'avais mon costume, mais c'est vrai que il y a ce truc un peu parlant. D'une petite fille qui va vouloir par exemple se déguiser en super-héros parce qu'elle va voir que c'est les super-héros qui sauvent le monde des parents par une sociabilisation par une socialisation qui a fait que on a enfermé des sexes et donc des genres dans des cases, on va pouvoir reprocher, on va pouvoir dire à la petite fille, tu ne peux pas être Batman c'est un homme, toi t'as le choix entre toutes les princesses. Et en fait, si la petite, elle qui n'a pas encore été socialisée, va répliquer, dire que non, elle a envie de sauver le monde, en fait, ça peut déclencher des réactions assez... assez agressive de la part de ses parents qui n'ont pas déconstruit et qui en fait vont engueuler la petite fille en lui disant non mais maintenant arrête de répondre, va te changer, et en fait tu restes avec une petite fille hyper frustrée ou un petit garçon qui serait déguisé en princesse, tu vois. Je sais que ça avait parfois fait débat sur les réseaux, où il y a des grandes figures, tu vois, qui ont pu dire non mais les mecs ça se déguise pas en princesse, ou subir, tu vois, même après des moqueries de l'environnement. Mais en fait tout ça c'est vraiment de la socialisation, et donc c'est vrai que moi ce que je dis dans mon livre c'est que je nie pas le fait qu'il y ait des différences entre les sexes, ce que je dénonce c'est l'interprétation de ces différences qu'on a en fait établies en hiérarchie et qui est donc purement une construction sociale.
Ça bouge un tout petit peu, je suis pas un gros expert des dessins animés, mais il me semble que la Reine des Neiges ça a bougé un peu, non, ou je me trompe totalement?
Alors écoute, en plus tu vois, moi je le dis et je me le cache pas sur les réseaux, je suis une grande fan de Disney, donc tu vois je suis pleine de paradoxes. De toute façon après c'est pas trop surprenant dans le sens où il y a vraiment tout le storytelling américain qui est parfaitement maîtrisé derrière. Mais bon, la Reine des Neiges, écoute, c'est juste qu'elle est célib et que en effet sa sœur se fait avoir par un mec, mais enfin tu vois, pour moi, de là à dire que maintenant Disney est féministe, faut pas déconner. Enfin, ouais. Tu vois, ça reste quand même des corps hyper normés. Alors, tu vois, c'est un peu comme les élections de beauté, on te dit que ça bouge parce que t'en as une qui fait du 40. Bon, dans les Disney, t'as Vaiana qui a du bide, mais on va pas non plus, tu vois, ça reste quand même des standards qui contribuent à perpétuer, quoi.
Et d'ailleurs, toi, dans les différentes thématiques, parce qu'en fait, en gros, le bouquin, il est structuré par thématique, donc sur la beauté, sur le couple, etc., etc. Donc déconstruction toujours. Une des choses que tu dis, c'est que le chapitre sur le poids, c'est un sujet qui t'a touché personnellement et qui est du coup hyper important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça et en particulier de cette expression « il faut souffrir pour être belle » que tu reprends dans ton livre?
Écoute, carrément, c'est vrai que le poids, je pense que c'est ce que j'ai vécu de manière où j'ai vraiment senti la jonction de la manière la plus forte, parce que j'avais des parents grossophobes. Donc pour nous, il y avait vraiment, tu vois, c'est fou quoi. Quand j'y pense, c'est un peu la dichotomie que j'avais avant. T'avais les gens gros d'un côté, les gens minces de l'autre, et fallait pas. Enfin, tu vois, c'était un désaveu.
Don't cross the line.
Ouais, non, mais c'est vraiment, tu sais, la fixed mindset versus la growth mindset, quoi. Et ouais, c'était vraiment ça. Tu vois, je me souviens, ma sœur jumelle, elle avait eu une fois le malheur de ramener des bonbons de notre voyage au Canada parce qu'on avait fêté Halloween là-bas. On avait 14 ans, tu vois. Et un jour, mon père a trouvé le sac où il y avait les bonbons, peut-être 2 semaines après. Et il était arrivé dans la cuisine en mode « c'est quoi ça ?» Et ma grande sœur avait commencé à filmer. Et donc, en fait, je me souviens parce que ma grande sœur avait ensuite posté la vidéo sur Facebook. Donc, l'humiliation totale pour ma sœur jumelle, tu vois. Et où, mon père lui disait vraiment « mais ouais, tu vas devenir grosse en mangeant ça. Tu déconnes. Ouais, sale bouffie. » Enfin, tu vois, où ma sœur, elle est en larmes et tout. Et où vraiment, il y avait cette détestation des gros qui du coup, nous, vu que c'est ce qu'on connaissait, c'est ce qu'on a intégré, et sans le déconstruire, tu vois, alors que en fait c'était juste hyper représentatif de la grossophobie sociétale. Et parce que mes parents n'ont pas fait ce travail de déconstruction, en fait nous l'ont transmis. Donc c'est ça que c'est hyper important pour moi de remettre un peu en question. C'est ce qui ensuite permet d'ouvrir l'esprit les générations aussi qui arrivent. Mais donc bref, on a vraiment grandi dans cet environnement grossophobe. Et donc moi, quand j'ai pris du poids, tu vois, vers 17 ans, avec la pilule, etc., je me souviens que ma grande sœur m'avait dit « Est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un programme de sport ?» J'ai trouvé ce programme de sport-là. Donc tu sais, c'était les comptes un peu fitness